Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Une fois par mois, on se offre une édition bien spéciale de l'émission. Une fois par mois, on vous propose le club de lecture. Alors, pour les nouveaux qui ne nous suivent pas depuis plusieurs années, eh bien, le concept, c'est qu'on est quatre lecteurs qui se rencontreront autour de quatre titres qui sont sélectionnés par l'un d'entre nous. Dans l'optique d'échanger, de discuter, c'est une opportunité de comparer différentes perspectives autour d'un même album, de tisser des liens entre des ouvrages qui sont, et j'ouvre les guillemets, à l'étude. Alors, avec moi, Raymond Poirier, donc pour ce club de lecture, ben, j'ai le plaisir d'accueillir, par ordre alphabétique, Marco Duchesne, bonjour.
Bonsoir.
Édouard Tremblay, bonjour.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Et Jérôme Vermette, bonjour.
Bonsoir.
Alors, le thème de ce mois-ci, eh bien, il a été sélectionné par Marco. C'est sous le thème de la rédemption. Alors, tu as choisi quatre ouvrages. Je les mentionne et je te laisserai les présenter par la suite en amont des échanges. Alors, quatre ouvrages qui, selon toi, mettaient chacun à leur manière de l'avant le thème de la rédemption. Il s'agissait de Punk Rock Jesus de Sean Murphy chez Vertigo, Les aventures de Tintin, le tome 9, Le crabe aux pinces d'or de Hergé chez Casterman, Les aventures de Spirou et Fantasio, le tome 37, Le réveil du Z de Tom et Jean-Ry. Et enfin, le tome 5 de la série Comanche, Le désert sans lumière de Greg et Herman. C'est disponible du côté du Lombard. Alors Marco, pourquoi ce thème? Pourquoi ces quatre albums?
Ben, en fait, depuis que je lis de la fiction, depuis que je lis de la BD, de toutes ses formes, mon intérêt a toujours été et sera toujours pour le héros, cet individu qui, au prix de sacrifices, de motivation, régit sa vie pour les autres et faire en sorte de faire le bien et pour le monde et pour les gens. Il y a un aspect de ça qui m'a toujours fasciné et qui, pour moi, est important parce que, bon, dans ma vie personnelle, aussi, ça compte beaucoup, c'est la rédemption, c'est-à-dire ces erreurs qu'on commet dans nos vies ou dans la vie du héros ou du passé qui traîne derrière lui. Alors, ça a toujours été pour moi quelque chose de capital dans ma recherche du héros. Ici, les quatre albums que j'ai choisis, je les ai mis sous différents aspects et je le mentionnerai au fur et à mesure pour quel aspect j'ai choisi ces albums-là. D'abord, j'ai choisi Punk Rock Jesus, qui est en fait une histoire, le pitch que je donne quand je le conseille est toujours le même. C'est pour faire vite, je vais essayer de présenter chacun des albums rapidement, là, mettre en contexte. Punk Rock Jesus raconte l'histoire d'une firme de télé, une chaîne de télé qui acquiert les droits du Saint-Suaire de Turin. Et on part du principe que le Saint-Suaire de Turin a bel et bien abrité le corps de Jésus. Hein? Alors, à partir du sang sur le Saint-Suaire, il clone ce sang pour en faire le clone de Jésus. Donc, Jésus va naître et vivre sous les caméras 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'on va, engager un garde du corps pour protéger cette cinq familles pour les protéger. Et on va faire appel à un ancien membre de l'IRA. Un ancien membre de l'IRA avec un passé assez chargé. Et lui, sa quête va être de protéger cet enfant-là, qui est supposé être Jésus, qui va se rebeller, qui va fuguer, qui va devenir athée, bref, un rebelle. Et lui va essayer de le ramener. Et on va comprendre que pour lui, ce qui est important, c'est que ce Jésus-là, eh bien, c'est le vrai parce que lui a besoin d'une rédemption par rapport à son passé. Et là, l'aspect que j'ai choisi pour cet album-là, c'est la guerre versus la rédemption. Dans le deuxième album, j'ai choisi Le réveil du Z, une aventure de Spirou et Fantasio. Pour remettre en contexte cet album-là, il faut retourner dans les albums précédents où Zorglub, ce méchant, ce mégalomane qui voulait diriger la planète d'une main de fer à son image, à un moment donné, après une courte période de coma et de régression, tombe en enfance. Et à son réveil, Zorglub, ce méchant, devient un bon gars et passe de l'autre côté. Il va même aider Spirou et Fantasio dans plusieurs de leurs aventures. L'album qui nous intéresse, c'est Le Réveil du Zèbre, où Spirou et Fantasio vont faire un voyage dans le futur. Et là, ce futur-là, eh bien, un des héritiers de Zorglub va avoir accompli le rêve de Zorglub, c'est-à-dire de mettre le monde sous sa dictature. Et Spirou et Fantasio vont constater que finalement, Zorglub ou ses héritiers ont réussi à faire son plan machiavélique. Donc là, ici, l'aspect qui m'intéressait de la rédemption, c'était l'héritage. Bien ensuite, un album que j'aime beaucoup, qui est Le désert sans lumière, cet album de la série Comanche, où le personnage principal, Red Dust, ce cowboy qu'on voit au début de la série, avec une grande moralité, incorruptible, prêt à aider autrui, va être confronté dans les albums précédents à un desperados de la pire espèce. Dobbs, ce bandit, va mettre à feu et à sang la région dans laquelle le ranch 666 est et que Red Dust travaille. Et pendant deux albums, il va pourchasser ce Dobbs, ce desperados, et il va suivre sa trace à travers deux états. Sa trace sanglante, et à chaque moment qu'il va traverser et dans sa poursuite, dans sa chasse, dans sa quête d'attraper ce bandit, il va vraiment mettre à l'épreuve les limites de sa moralité, au point où il va réussir à le coincer dans une ruelle un soir, désarmé, et Red Dust, ce héros, va tirer de son revolver, va vider son chargeur, 6 balles, abattre Dobbs et se livrer à la police, se livrer aux autorités. Dans l'album qui nous intéresse, Le désert sans lumière, Red Dust sort de prison. Il a purgé sa sentence et il revient en ville. Et là, il revient en ville sous le regard de ses amis, sous la justice, car la région s'est grillée d'un shérif. Et il va être confronté encore une fois à cette rédemption de tout ce monde-là qui, autour de lui, s'attend à ce qu'il soit Red Dust, ce héros. Et là, ici, l'aspect qui m'intéressait était la justice. Et pour finir, j'ai choisi un Tintin. Un aspect qui me tient à cœur aussi, c'est le crabe aux pinces d'or d'une aventure de Tintin. Dans cette aventure-là, Tintin, Tintin, son lot quotidien d'aventure ne change pas. Il va se mettre en quête de résoudre une affaire dans laquelle il y a un trafic d'opium, un trafic de drogue. Donc, il va affronter des trafiquants de drogue. Mais c'est pas là le plus grand danger qu'il va avoir, c'est de se lier à le capitaine qu'il va rencontrer sur un des bateaux. Ce capitaine, le capitaine Haddock, ivrogne, fini, il va l'accompagner partout et c'est lui qui va le mettre le plus souvent en danger à chaque fois qu'il va boire, à chaque fois qu'il va consommer de l'alcool, il va mettre Tintin en danger et plus en danger que les trafiquants parce que si on lit l'aventure, finalement, les trafiquants, c'est pas si compliqué que ça. Là, l'aventure, il est sur leur piste et un moment donné, il est. Mais tout le long, toute l'aventure est faite que de situations dans lesquelles le capitaine met Tintin en danger. Et là, cet aspect-là, évidemment, pour la rédemption, c'est le vice. Parce qu'à la toute fin, Haddock décide de devenir abstinent. Ce qui n'est pas vrai parce qu'on verra aussi dans les autres albums. C'est une quête aussi de vouloir reprendre un verre et on pourra en discuter lors de l'échange entre eux. Mais voilà. Alors donc, un thème, 4 aspects. À vous, messieurs.
En fait, je pense que je ne sais pas avec lequel on aimerait se lancer, mais en même temps, je veux dire, je regarde les éléments que tu as proposés, puis Marco, il y en a un là-dedans, tu sais, c'est un album emblématique, un peu incontournable. Je veux dire, quand on pense aux aventures de Tintin, il y a avant et après le crabe aux pinces d'or. Avec l'intégration du capitaine Haddock, je dirais pas qu'on redéfinit la série, mais on ajoute un peu au casting qui entoure Tintin, et on va chercher un personnage qui est, oui, caricatural, mais qui a un côté qui est quand même fondamentalement humain. Il est bourré de défauts, mais avec une volonté de dépasser ses défauts. Donc, pour moi, et je pense pour tout lecteur, au bout du compte, de Tintin, qui l'a lu au moins une fois dans sa vie, bien, on remarque un peu cette césure-là du moment où tu choisis de les lire un peu dans l'ordre. Donc,
Ben,
je sais pas.
je pense que c'est là enfin l'importance qu'on va prendre à Doc, au-delà du caractère évidemment mature qu'il va amener parce qu'il est quand même plus âgé que Tintin, c'est cette faillibilité que lui a, que Tintin a pratiquement pas en fait, surtout au début, et donc qui va donner une humanité, qui va donner une profondeur, parce que la rédemption, bien sûr, implique qu'on a failli, qu'on a tombé. Et comme l'expliquait si bien Marco, pour ce qui est de Haddock, c'est quelque chose qui va être récurrent jusqu'aux derniers albums. Je veux dire, même dans Tintin au Tibet, même dans Tintin et les Picaros, je veux dire, le problème d'alcool de Haddock est encore présent et cause encore un paquet de quiproquos, un paquet de situations problématiques.
Oui,
Ce qui est
mais ça,
intéressant,
c'est.
c'est.
Vas-y, Marco.
Ce qui est intéressant, c'est effectivement, mais à partir de la fin de Le Crabe aux pinces d'or, Haddock a pris de la maturité face à l'alcool, on le voit là, et
Oui.
la plupart du temps, à chaque fois qu'il veut s'adonner de prendre un verre ou autre, il y a toujours une contrainte, soit physique, extérieure, qui vient contrecarrer ses plans, ou il sortit. Je pense à le secret de la licorne, ou encore l'affaire Tournesol, où la bouteille est là, mais bon, il hésite parce qu'il le sait. Il a pris beaucoup de maturité. Et quand il franchit le pas de prendre le verre, arrive une catastrophe, peu importe, qui fait en sorte qu'il ne consommera pas d'alcool. Et le fait le plus trippant, c'est que chaque fois que Tintin a besoin qu'Haddock prenne une décision de son bord, il le fait boire.
Puis en même temps, c'est particulier, moi, ce que j'aime bien d'Haddock aussi, parce que pour rattacher un peu avec ton thème, tu parles de rédemption, Tintin, de la façon dont il est présenté, il n'y a pas de rédemption possible. C'est pas un personnage avec des failles, ça limite une mécanique à l'intérieur de son récit qui est sans failles comme tel, qui est débrouillard, qui est inventif, qui est bourré de qualités. Tu pourrais pas offrir une rédemption ou un arc narratif d'un personnage à une entité comme Tintin, dans le fond. Haddock, lui, permet ça. Et le fait, j'ai l'impression que ça devient aussi un ressort narratif ou un élément récurrent, le combat contre l'alcoolisme qui revient donc dans quand même pas mal d'albums. Ben, c'est peut-être pour nous rappeler un côté, ce côté-là, mais en même temps pour ramener peut-être un peu cette grande arc ou ces éléments de caractérisation de ce personnage-là, dans le fond, parce qu'il y a une richesse, donc on peut pousser, développer, ou sinon ça devient, comme tu disais, un peu un ressort narratif. Un peu limite humoristique, là, entre guillemets aussi, là, mais ça dépend de
Mais
comment on le présente, là.
néanmoins, Tintin reste central par rapport à ce combat qu'a Haddock, parce que c'est dans le regard de Tintin que se regarde Haddock. Et c'est ça qui est le fun dans Le Crabe aux pinces d'or, parce qu'il est un ivrogne sur son bateau, parce qu'il sert à rien, il sert plus à rien, il n'est même plus capitaine de son bateau. On laisse pourrir dans son coin, on dit boueux comme un trou,
Son
il sert
lieutenant le
plus à
fait
rien.
boire. Son lieutenant le fait boire pour prendre sa place, en fait.
Exactement, exactement. Et
Tout à fait.
c'est dans cette volonté du regard de Tintin, justement, qui lui donne cette motivation d'être un meilleur homme, de chercher cette rédemption-là. Sans Tintin, qu'est-ce qu'Haddock serait venu? Il serait probablement mort dans sa bouteille, dans le fond de sa cabine. Là.
Il y a
Et les
besoin de
aventures de
cette
Tintin
droiture-là.
seraient ennuyantes.
Oui.
Oui. Non, non, mais c'est ça. En fait, comme Raymond le disait, avec la création de Tintin, ce jeune homme, sorti de l'adolescence presque, ce jeune homme, alors il donnait des vices, ça devait être, tu sais, s'adresser à la jeunesse. Hergé savait ce qu'il faisait là, au fur et à mesure, même si ça s'est toujours adressé à la famille, il savait ce qu'il faisait là. c'était difficile de lui donner ce genre de vice-là. Et pour l'époque, introduire un personnage avec un tel vice, c'était quand même quelque chose.
Mais il est balancé parce que c'est un capitaine qui a de l'honneur. Quand il découvre que c'est de l'opium qui transporte son navire, il se révolte malgré tout son alcoolisme et tout ça. Donc, le personnage est fondamentalement bon et non pas... le vice ne le rend pas... Bon, c'est, OK, j'étais pour dire ne le rend pas agressif. Il l'est, mais contre les méchants, tu sais. C'est... c'est pas...
C'est tout le secret de la rédemption pour un héros, je veux dire... Faire les bonnes choses de la mauvaise manière, de cette manière-là, je veux dire, tu sais, les héros, c'est pour ça que les héros les plus intéressants cet aspect-là d'eux, c'est la rédemption. Je pense à, bon, l'univers de Marvel en est plein, là. Tony Stark, c'est un vendeur d'armes, là, qui se vole, là, avant de virer. Alors, toute sa vie va être, en fait, de rattraper le coup, là. Hawkeye, l'archer dans les Avengers, sur papier, c'était un bandit, là, c'était un voleur. Là. Alors, et Black Widow est un assassin. Là. Donc, ça, avec Hergé, Tintin, comme il est unidimensionnel, il fallait y joindre ces défauts-là. Et je crois que c'est ce tandem-là qui fait en sorte que...
Oui, puis en fait, ce qui est particulier dans ce récit-là, tu sais, je veux dire, tu l'as dit tantôt, je pense, Marco, si on enlève les notions du capitaine Haddock, l'histoire du crabe aux pinces d'or, c'est extrêmement linéaire. C'est pas l'enquête la plus spectaculaire de Tintin. Des enquêtes autour de l'opium, il y en a faites avant, je pense au Lotus Bleu, entre autres. Donc, c'est pas nouveau non plus dans le récit de Tintin. Et ce qui fait aussi que cet album-là, mais au bout du compte, c'est le capitaine Haddock qui le fait. C'est l'introduction de ce personnage-là, c'est la place qu'il prend dans l'album, qui va faire l'album et qui va faire que cet album-là va se démarquer par rapport à d'autres. Parce que si tu enlèves cet élément-là, c'est extrêmement simple et linéaire comme récit.
Oui, et la rédemption n'est pas dans le crabe aux pinces d'or, sauf la dernière case. La rédemption va être dans la suite des aventures de Tintin, où là, effectivement, et Dieu sait que l'aspect, ce qui est rigolo, c'est même dans quand arrive le secret de la licorne, Haddock, encore ce penchant-là, un peu plus prononcé, mais dès qu'il hérite, alors là, il devient une espèce d'aristocrate qui, là, la consommation devient un peu plus modérée. Alors, comme si l'aspect de devenir quelqu'un, de devenir, d'avoir sa vie assurée, et comme ça, comme si ce n'était plus... le problème, le moteur de l'addiction, l'alcool.
Et ce qui est intéressant, en fait, parce que tu faisais le parallèle avec les héros de Marvel, et même, je rebondis, en fait, aussi sur le secret de la licorne, parce que tout part d'un quiproquo, tout part d'une erreur. On amène les gens, et c'est ça aussi qui mène à la rédemption, c'est-à-dire qu'on a chez les héros de Marvel, justement, c'est une erreur du passé qui a été guidée par un mauvais maître ou par un mauvais but. Ou par un mauvais objectif. Et c'est ce qu'on a dans Punk Rock Jesus, essentiellement, avec notre héros, notre gars de Lyra, qui lui-même cherche la rédemption, mais rédemption par rapport aux erreurs qu'il a faites, erreurs qu'il a commises, mais parce qu'il a été mal guidé. Je veux dire, Haddock, il sait bien que la boisson, c'est pas correct, que peu importe qui on est. Mais là, on a quelqu'un qui, jeune, a été amené sur une mauvaise voie, un peu... contre lui-même et qui doit s'opérer ça, là, c'est exactement. Là.
C'est pratiquement guerre, un enfant soldat, en fait. C'est pratiquement un enfant soldat au bout du compte.
Tout à fait, là. Tout à fait.
La guerre, et c'est ça, c'est cet aspect-là. Si le vice, la rédemption est une affaire personnelle, évidemment, pour Haddock, c'est de s'entourer, là, qui va faire en sorte que sa rédemption va prendre le bon chemin. Dans le cas de la guerre, et surtout de ces guerres-là, qui sont des guerres civiles, qui sont des guerres avec des causes comme l'Ira ou l'Irlande, ou peu importe, on ne parle pas d'une guerre d'invasion, là, on parle vraiment d'une guerre fratricide. Dans ce cas-là, il y a une cause, il y a un moment pour se défendre, pour faire valoir ses droits, et là, ça les empêche pas de... ça empêche pas de commettre des actes irréparable. Alors, quand arrive le temps de la rédemption, et c'est ça que dans Punk Rock Jesus, on voit. Là.
Puis tu vois, hein, c'est drôle que tu parles que pour toi, la guerre soit centrale dans ce récit-là. Parce que moi, la première chose qui m'a frappé dans Punk Rock Jesus, puis ça fait un lien un peu à ce qu'Edward disait, que c'est un enfant qui a été élevé, qui a été mal guidé. C'est à quel point pratiquement tous les personnages de Punk Rock Jesus qui sont importants sont instrumentalisés par quelqu'un d'autre pour devenir quelque chose qu'ils ne veulent pas être. Et là, à mon sens, bon, tu sais, le Christ, qui est peut-être Jésus, parce que c'est jamais ouvertement dit, hein, il laisse quand même une porte à l'idée que le sueur de Turin, c'est pas hors de tout doute raisonnable. Bon, tout ça. Mais tout le monde, fondamentalement, y compris le personnage principal de Thomas McKeith, sont instrumentalisés par un pouvoir au-dessus d'eux. Et ce qui me fait penser que la violence qu'on voit dans Punk Rock Jesus, c'est pas tant celle de Lyra, qui est en filigrane du passé du personnage de Thomas, mais plutôt celle bien contemporaine de l'exercice sur les esprits. Comment maintenant, de nos jours, alors que ça a été écrit qu'au début des années 2000, Punk Rock Jesus, l'industrie du divertissement va pervertir à peu près toutes les idéologies pour nous contrôler d'une certaine manière. Donc, on instrumentalise tout le monde dans cette histoire-là.
Enfin, un côté la sur la foi, sur la croyance. Et dans le fond, la quête de rédemption de Thomas, à mon sens, en Punk Rock Jesus, est franchement plus désespérée. En fait, il a commis des choses terrible. Et lui, dans le fond, doit se convaincre que ce qu'il va faire dans la deuxième moitié va avoir un sens. Et que même à un moment donné, on sent qu'il vacille un peu dans ce sens-là, parce que tu l'as dit, on ne sait pas si c'est Jésus ou pas, on ne sait pas si c'est le deuxième, l'essence, on ne sait pas si tout ça a un sens, mais pour lui, ça a besoin d'avoir ce sens-là. Parce que sinon, c'est l'enfer qui l'attend pour lui, là.
Mais la foi est elle-même là-dedans instrumentalisée par le NAC.
La nouvelle Amérique chrétienne. En fait, c'est des guerres de dogmatisme. C'est la foi qui est moteur de guerre, qui est moteur de division.
Oui, c'est mais les athées contre les croyants. Mais dans son cas à lui, c'est la foi pure de la rédemption, parce que la rédemption vient, c'est la foi qui l'a apporté le. Peut-être la religion qui l'a apporté, là, le terme comme tel, rédemption, vient de la religion qui, au début, repentez-vous. Alors, lui, c'est au-delà du fait que, oui, il est instrumentalisé par tout ça. Lui, au sortir de cette guerre-là, et à un moment donné, on lui donne la job de protéger un enfant qui est supposé être le Christ. Alors là, lui, pour lui, c'est la foi, c'est de croire en cet enfant-là, en ce qui soit Jésus, pour qu'on lui pardonne, pour que en fait, la rédemption, c'est se racheter auprès des autres et auprès de soi-même.
T'amènes un point, en fait, très intéressant aussi, Marco, parce que justement, évidemment, dans cette histoire-là, tout tourne autour, bien sûr, des assises judéo-chrétiennes. Et justement, je veux dire, tout le Nouveau Testament repose là-dessus. Dieu qui envoie son Fils pour la rédemption, pour la rémission des péchés, et qui va le sacrifier. Et donc, on a, dans Punk Rock Jesus, cette idée-là aussi, c'est-à-dire que la rédemption ici de quelque chose qui est aussi grand, bon, qui n'est pas tous les péchés du monde, mais qui sont ici les péchés de Thomas, ne peut pas ne pas passer par le sacrifice, parce que c'est au cœur de la rédemption judéo-chrétienne. Elle passe par le sacrifice, par le sang.
Et le héros aussi, c'est la dernière étape du héros, hein? Je veux dire, le héros, c'est un trauma, c'est une motivation, c'est les limites. Et la dernière étape du héros, c'est le sacrifice. Alors, que tu le fasses pour les autres, ou que tu le fasses pour justement cette rédemption-là, effectivement, tu as raison, c'est vraiment le but ultime.
Puis dans un contexte particulier, Punk Rock Jesus, je trouve, en fait, c'est que chaque personnage, tu as Thomas le héros, tu as Gwen, la mère de Jésus, tu as Jésus, tu as les autres, tout le monde a conscience aussi d'être instrumentalisé à l'intérieur d'un grand spectacle. Parce que dans le fond, c'est peut-être, on pourrait penser, quand tu parlais de télé-réalité, par exemple, Truman Show, mais dans le Truman Show, il n'a pas conscience d'être la vedette d'une télé-réalité. Jésus, il l'est. Il sait qu'il est élevé par un système, pour un système. qui est mis en opposition d'un autre système, ça m'en est, c'est clairement indiqué que cette opposition-là génère des codes d'écoute et le reste. Donc, ils ont conscience de cette instrumentalisation, puis ils font aussi le choix de jouer ce jeu-là. Et chacun va jouer un peu son rôle dans une rébellion, un appui à ce système-là, en fonction de ce que chacun cherche. Mais il y a une recherche, je veux dire, dans la relation que chacun a avec la réalité de cette situation.
Elle est comme l'inverse, d'ailleurs, du personnage de Thomas, là-dedans, avec la scientifique.
Oui.
Elle commence comme une activiste environnementaliste qui fait des recherches pour sauver la planète au niveau du réchauffement climatique, et elle accepte de se prêter à ce jeu-là qui, on s'entend au niveau éthique, est fort douteux, de se prêter à ce jeu-là parce qu'on lui a promis de financer des recherches sur les algues qu'elle pourrait modifier génétiquement là-dedans. Donc, et bon, évidemment, quand on lit là, la bande dessinée, cette bande dessinée-là qui était, soit dit en passant, facile de se laisser happer, là, honnêtement, mais tant par le rythme et tout ce qui s'y déroule que par le dessin vraiment sublime là, de Sean Murphy, mais ce personnage-là va affronter constamment ses propres erreurs dans cette bande dessinée-là, selon moi, là, la scientifique. Alors que Thomas, lui, de manière générale, c'est dans son passé, sauf quelques éléments comme le fait de ne pas réussir à sauver certains personnages. Le scientifique a une bonne prémisse dans ce qu'elle veut faire, mais les moyens qu'elle utilise, finalement, elle s'en aperçoit par elle-même, sont franchement douteux. Là.
Oui, ou sinon, tu as Gwen à côté qui chute complètement dans les arbres de l'alcoolisme et le reste, puis qui, à un moment donné, cherche sa propre rédemption, mais pour faillir complètement. Qui agit un peu comme contre-exemple aussi.
Un personnage totalement dramatique, là, tragique, en fait. Gwen, le personnage de Gwen, c'est un personnage tragique complètement. Là.
Le seul qui se rebelle pas, en fait, beaucoup de personnages se rebellent contre ce système-là, mais le seul, c'est Thomas qui ne se rebelle pas.
Vrai.
Il part à la poursuite de ramener... Non, mais c'est vrai! C'est vrai, la ligne de conduite, c'est la ligne de ramener le Jésus, puis go! Et lui, il le fait personnellement parce que probablement que le passé qui traîne ou cette rébellion-là, sa cause, il l'a porté à une rébellion. Et là, il veut faire les choses de la bonne façon pour se racheter. Alors, évidemment que non seulement il veut en croire en ce Jésus-là, il veut croire en ça pour qu'il y ait une rédemption de son côté, mais c'est le seul qui ne se rebelle pas. Il suit la ligne de conduite qu'on lui a.
Oui, tout ça dans le contrôle. Oui, vas-y, Édouard.
Oui, non, c'est ça, parce que quand on parle en fait de rédemption, quand on parle du poids, du sacrifice, et je ramène aussi à cette scientifique auquel a fait mention Jérôme, c'est justement d'être confronté et de dire on prend une décision qu'on sait peut-être néfaste, mais pour un objectif qui justement va nous amener notre rédemption. Et ce qui est extraordinaire dans une BD, par exemple, comme Le Réveil du Z, c'est que justement, dans le fond, la rédemption, toute l'idée de rédemption part de là. On se retrouve avec ce que j'appelle la situation Deadpool 2. Deadpool 2, hein, pourquoi en
oui.
fait?
Pourquoi, oui?
Pourquoi? Eh bien, parce qu'on se retrouve en fait un peu avec le même problème, c'est-à-dire que, dans le fond, ici, nos aventuriers, Spirou et Fantasio, qui vont aller dans le futur, vont se rendre compte que c'est Zorgloob Junior qui va, donc l'héritier de Zorgloob, qui va foutre le bordel. Et donc, un peu comme dans Deadpool 2, en fait, de retour dans le passé, se rendant compte que Champignac propose à Zorgloob, « Ah, mais maintenant, bon, qu'est-ce que tu vas faire? » Zorgloob dit, « Ah, ben, je pense peut-être à fonder une famille. » Que c'est la rédemption, dans le fond, de Zorgloob qui est à la source de tout ce qui va subvenir de néfaste. Et là, quand je parlais de choix difficiles, parce qu'évidemment, bon, là, l'album nous ferme là-dessus, mais quand je parlais de choix difficiles, ben là, c'est là. C'est-à-dire, est-ce que dans le fond, là, à partir de là, en sachant ce qui va arriver, on fait quoi? On est les mêmes Zorgloob? On le reconvertit à ses mauvais penchants pour qu'il perde l'idée de faire une famille? au détriment du bon type qu'il est devenu et qu'on va sacrifier. C'est quand même, pour un album de Spirou, je trouve que ça ouvre des portes quand même assez éthiquement intéressantes, assez denses. Là, de ce côté-là.
Sincèrement, Edouard, cet album-là, il fait juste ça, ouvrir des portes. Là. Je veux dire, il y a la porte éthique que tu amènes. Dans le fond, est-ce que le bien qu'on va faire, et qu'on fait avec, à quel point est-on responsable au bout du compte de notre descendance? Il y a toute la réflexion que je trouve hyper actuelle aussi autour du contrôle du temps. De dire, mais dans le fond, comment contrôler l'être humain? Ben, tu enlèves le repère temporel, il n'est plus capable de s'organiser. Et éventuellement, ben, tu réussis à l'asservir avec les appareils, les outils, les montres intelligentes. Je veux dire, c'en est une autre. Écoute, c'est fou comment ça déboule en 44 pages. On dirait qu'il nous enchaîne comme ça des concepts. Des
cet idées. Album-là, en fait, Marco, premièrement, merci de l'avoir fait relire parce que moi, je l'avais pas lu. Raymond Poulon s'en est parlé un peu, c'était avant de me dire. Moi, je l'avais pas lu depuis qu'il était sorti à l'époque. Puis, bon, évidemment, j'étais un fan de Spirou et Fantasio, donc j'étais content de relire ça. Et c'était de voir à quel point, effectivement, cet album-là, en dehors du fait que, comme souvent dans les albums de Tom et Jean-Ry, l'histoire va sur les chapeaux de roue. Hein. Eux, ils se sont toujours tenus au canevas de 44 planches. Mordicus, peu importe l'ampleur de l'aventure qu'ils ont en tête et tout ça. Mais le thème central, et là, je m'en excuse, Marco, parce que là, je parle pas de rédaction, mais le thème central de cet album-là est franchement actuel, comme si Tom et Jean-Ry s'étaient projetés au début du 21e siècle. On se disait, genre, ben, la population va faire des choses ennuyantes, elle va être cadrée beaucoup, se révoltera pas parce qu'elle va être, on va lui dire quoi faire et tout ça. Et là, c'est au lieu d'être par des montres maintenant, c'est souvent par nos écrans, nos cellulaires et tout ça. Mais de manière générale, ils ont ni plus ni moins bien réfléchi à un portrait de ce que ça allait être éventuellement une société que tu mènes à son paroxysme là-dessus, là, et pour des causes de sécurité, parce que Zorglob Junior le dit, le monde n'a jamais été aussi en paix que ça. Donc, cet album-là, là-dessus, m'a vraiment marqué là, en tant que tel, de relire cet album-là tant d'années après. Là,
dans en fait, la manière la d'imaginer le futur. Dans le... Mais vas-y, c'est la motivation
de... Oui, mais en fait, le vilain contemporain qui différencie le vilain d'autrefois.
Oui.
A une motivation et souvent une motivation légitime à faire la chose vilaine, mais pour de bonnes raisons. Là, et ça, c'est typique de, je pense encore une fois, à l'univers Marvel au cinéma, Thanos. Ma soeur, qui n'est pas du tout très super-héros, s'est mise à tout écouter les films, puis elle était en adoration avec Thanos. Elle dit « Il fait la bonne chose, là! Il veut faire la bonne chose! » Mais bon, tu sais, c'est ça là, qui... Autant la rédemption rend le héros intéressant, autant la motivation du vilain est intéressante aussi. Là. Ouais. Ça fait un vilain beaucoup plus intéressant. Et dans le cas de Zorglub, ça a toujours été ça. Zorglub était un mégalomane, mais tu sais, faire de la publicité sur la Lune, sa première shot, c'était pas... C'était pas le truc le plus vilain à faire, mais bon, il faisait de la mauvaise façon. Là. Et alors, son héritier, cette rédemption-là qu'il avait acquis, le Zorglub, cet héritier-là l'a pris et, en quelque part, il l'a accompli. Là, rendre une société meilleure ou meilleure, mais peut-être plus en paix avec...
Et ce genre d'album, en fait, sincèrement, le fait que tu disais, Jérôme, tantôt, ils se tiennent aux 44 pages, là, puis je lisais ça, je me disais, mon Dieu, pourquoi ils n'ont pas fait comme Franquin, fait un 60 planches, pour justement explorer un peu plus ces motivations-là. Ils ont imaginé un futur, je veux dire, en termes de look, en termes d'ambiance, c'est intéressant aussi, les éléments d'architecture, la structure. Il y a tellement, je le redis, c'est ce que j'ai dit tantôt, mais il y a tellement d'idées là-dedans que j'aurais eu envie d'avoir un 15-20 pages de plus pour vraiment pousser plus loin les idées qu'il amenait, parce que ça déboule vraiment vite. Là. C'est hyper rythmé. Je ne l'avais pas lu, je pense, depuis que j'étais petit non plus. Là. Donc, de replonger un peu là-dedans, ça donne un peu un coup d'un côté, puis de l'autre, ben, c'est de garder la tête hors du loup un peu dans cette avalanche d'événements, de références. Ça devient un album qui est assez touffu aussi.
C'est ce qui a fait la force de la série. Hein. Spirou a été une des séries qui a adapter le modèle américain. Mm-hmm. Si on parle de Batman, Superman et autres super-héros américains, je veux dire, c'est des années, des décennies du même héros, mais confié à des équipes différentes qui ont toujours eu comme motivation de raconter un héros dans son temps. Alors, Spirou, quand les créateurs ont été remplacés, l'équipe qui venait après a toujours été ancrée dans l'actualité même de leurs aventures, de mettre les héros en contexte de notre monde dans lequel on vit, mm-hmm. avec les préoccupations qu'on vit, avec tous ces thèmes-là. Alors, c'est ce qui fait la force de cette série-là. Et c'est une des premières à faire ça. Si on regarde les autres séries Dupuis, je veux dire, même au-delà du fait que certaines étaient ancrées dans une époque comme, je sais pas, moi, les tuniques bleues et tout, il y avait moyen d'actualiser la chose, mais ça ne s'est jamais produit, sauf avec Spirou et
Fantasio. En plus d'avoir laissé dans ces cas-là Spirou, puis ça, je trouve que c'est un des trucs qui est vraiment intéressant dans la série, d'avoir laissé chaque auteur et dessinateur se les approprier à leur manière. Et dans le cas là, de Tom et Jean-Ry, outre le format auquel ils se sont tenus rigoureusement, non seulement les aventures déboulent sur les chapeaux de roue à chaque fois, et c'est encore le cas avec Le Réveil du Z, mais les gags roule là-dedans à travers tout ça. Si on ne prend pas le temps de regarder, là, moi, je ne l'avais pas lu depuis longtemps. On voit une vue une case d'exposition de la ville de Paris. À un moment donné, on fait juste regarder les noms de commerce. J'étais mort de rire. Là, les assure que dalle pour la maison d'assurance, puis des choses comme ça, tu sais, hebdo pourri. Là, tu te dis, OK, eux autres, ils n'arrêtent pas. Là, chaque fois, chaque planche doit être un prétexte à faire des gags en plus de l'aventure. Donc, c'est vraiment une touche assez particulière là, de Tom et Jean-Ry par rapport aux autres auteurs qui ont pris la série.
Mais au-delà de cet humour-là qu'on va retrouver, en fait, dans justement la plupart des BD, disons, qui s'adressent pour un plus jeune lectorat ou en tout cas qui peuvent toucher un plus jeune lectorat, j'irais, et c'est contrairement à Tintin, c'est ce que je trouve justement profondément mature et profondément même presque sinistre, en fait, c'est que justement, à la fin du Réveil du Z, dans le fond, on est rendu là. Je veux dire, il y en a. C'est la rédemption qui est l'erreur, c'est la rédemption qui est la faute, et donc, il n'y a pas de fin à cette espèce de cycle, disons, appelons-le du mal. Bon, encore que Zorglob, c'est pas un gros mal, mais bon, on se comprend. Mais je veux dire, tu sais, si on fait encore une fois, on tire le parallèle par rapport à Haddock. Oui, bon, qui a bu, boira, et Haddock va y revenir tout le temps, mais il y a toujours quand même, je veux dire, sa rédemption est quand même là. Il avance quand même, il progresse quand même vers quelque chose de plus en plus positif, de plus en plus valorisant pour lui-même. Alors que là, je veux dire, c'est, encore une fois, j'y reviens, là, c'est ce qu'on y amène de bon, c'est ce qu'on y amène justement de rédempteur qui finalement nous mène à une finalité qui ne change rien, c'est-à-dire que lui soit resté mauvais et qu'il en arrive là, ou qu'il soit bon, qu'il se reproduise et qu'il en arrive là, c'est quand même profondément sinistre, c'est profondément triste. On dit qu'il n'y a pas de fin pour son couple.
Une très belle case d'ailleurs. Hein? Dans la série, c'est très rare qu'on voit ça, mais et Spirou et Fantasio sont presque tristes de ce qui arrive, puis c'est la fin de l'album. Là. Ils sont effectivement là où Champignac et Zorglob sont contents de ce qu'ils se disent et tout ça. On voit tout de suite les deux héros, eux, complètement désabusés. Ils ont sauvé le monde dans le futur, mais ils savent bien que peu importe ce qui va arriver, effectivement, comme tu le dis, Edouard...
Parce que maintenant...
Ils ont vu aussi arriver ce qui arrivait à leur descendance à eux aussi.
Qui n'est pas rose non plus.
T'sais, qui nous dit aussi clairement que peu importe d'où tu pars, l'héritage peut chavirer. Là. Je veux dire, on ne sait pas vers où nos descendants vont s'en aller, vers le mieux ou vers le pire ou vers aussi bien.
En fait, la rédemption n'est pas un truc qu'on lègue.
Non, exact.
Non, mais c'est ça. En fait, c'est hyper égoïste, la rédemption. Dans le sens que, tu sais, nos vies qu'on mène et tout... on est du bon monde et on fait la bonne... Et parfois, on fait des erreurs et on fait de la peine à quelqu'un, on fait du mal à quelqu'un. Et parfois même, ces gens-là, on les revoit plus. qui fait que, tu sais, la rédemption, à un moment donné, à pas savoir que sont devenus ces gens-là, ben c'est pour toi que tu le fais. En fait, la rédemption, là, c'est hyper personnel. C'est se pardonner, se racheter. Hey, je m'en viens, philosophe.
le sujet prête à la philosophie, Marco.
Oui, oui.
Qu'est-ce que la rédemption? Qu'ont dit les Grecs?
Mais oui, c'est la question. La question est drôle que tu la poses parce qu'en fait, c'est souvent, vous le savez, là, une des premières questions que je me pose quand on prend un thème comme ça en BD, vous dites, comment on peut le définir et tout. Et puis, la rédemption, c'est fichtrement pas évident là, de justement dire qu'est-ce que c'est dans le détail. C'est une question de trauma, une question de contexte, une question d'acceptation, d'intention, tout ça qui rentre en ligne de compte. Et justement, encore une fois, apporter au crédit de Marco, c'est-à-dire que le choix des BD va nous amener justement ces éléments-là, mais vont capitaliser sur un, sur l'autre. Bien sûr, ben là, tu sais, le temps tourne et je m'en voudrais de qu'on ne consacre pas à Comanche, évidemment, le temps qu'il mérite, parce que justement, je pense qu'avec le réveil du Zen, on en arrivait à ce point-là. C'est-à-dire que là, la rédemption, on sait qu'elle mène à rien. On sait que la rédemption peut, malgré justement son caractère positif, peut néanmoins débouler à quelque chose qui ne marche pas. Et je pense qu'avec Red Dust, avec ce que vit Red Dust dans cet album-là de Comanche, eh bien, on a cette illustration-là très, très forte. C'est-à-dire, on a un gars qui, au sortir de prison, décide que lui, sa rédemption va passer par ne plus utiliser ses armes, ne plus être justement ce gunslinger, ce pistolero qu'il a été. Mais la force, encore une fois, du contexte, la force des circonstances vont faire que pour les autres, pour lui, il doit sacrifier sa rédemption ou il doit, je sais pas, l'altérer si on préfère et reprendre les armes et donc trahir la promesse qui s'est faite très très tôt comme ça, mais en même temps redevenir lui-même. Donc c'est, quand je dis que c'est très très difficile de définir qu'est-ce qu'est la rédemption, ben c'est ça là.
Je suis comme semi-d'accord avec toi, Édouard, pour ce qu'il arrive à Red Dust. Puis je l'explique parce que, en tout cas, moi, de la manière dont je l'ai compris, il ne voulait pas reprendre les armes parce qu'il obéit à la loi. Il ne veut pas retourner en prison et tout ça. Et il accepte de reprendre les armes parce qu'un bras de la loi, le shérif de... excusez-moi, j'ai oublié le nom de la ville là, où l'action se déroule. Le shérif accepte, même lui demande de reprendre les armes, et là, il accepte. Donc, pour moi, c'est le même genre de rédemption, mais je l'ai peut-être mal saisi, le personnage. Là.
En fait, de mon point de vue, les deux, vous avez raison. En fait, Red Dust, ce moment, c'est-à-dire l'album précédent, la dernière case, dans la ruelle, et là... Je vais faire référence à une case qui est emblématique et qui a inspiré un film qu'on connaît bien et qu'on a tous aimé. Cette dernière case où il regarde Dobbs sans armes. Et à un moment donné, la case qui suit, c'est Red Dust avec au-dessus de lui tous les visages, tous ces morts que Dobbs a fait. Et après, il tire. Et ça, je vous rappellerai une des dernières scènes de Seven, quand le policier qui incarne Brad Pitt a devant lui Spacey, le tueur en série, et qui lui parle, et on voit en réaction de choc les deux faces, Kevin Spacey qui le convainc de le faire, Brad Pitt qui hésite, Kevin Spacey convainc de le faire, Brad Pitt qui hésite. Et une des dernières shots, c'est Kevin Spacey qui parle de sa blonde et on voit Brad Pitt avec l'image de sa blonde et il tire. Alors, on peut voir comment l'idée de ça, quand Herman a dessiné ou que Greg et Herman ont fait cette case-là, veut dire ils ont touché quelque chose dans le sens que cette faille-là que vécu Red Dust à ce moment-là, c'est minime, mais c'est tout pour lui. Il a enfreint une de ses loi s'était accordée.
C'est minime, c'est tout pour lui, mais c'est ça, c'est qu'à partir de là, on voit aussi qu'il y a une incidence. Je veux dire, il y a une scène dans Le désert sans lumière où il retourne dans la ville et où il subit le jugement d'un peu tout le monde parce qu'il a dépassé cette ligne-là. et où il se rend compte que même si techniquement, sur papier, son geste était juste, comme son geste n'était pas donné dans un cadre de justice, comme tu n'es pas censé te faire justice toi-même, ben nécessairement, ces gestes-là vont avoir des conséquences et vont changer le regard que les autres te portent, aussi portent sur toi.
Tout à fait. Et la pression, les gens, Red Doss revient, ses amis savent qui il est. Et là, il y a une menace sur la ville. Dans ce temps-là, oui, le shérif veut bien avoir un ex-détenu en autant qu'il suive la loi, mais là, il y a une menace qui pèse sur la ville. Alors, attends une minute, là, j'ai besoin du meilleur. Et Red Doss va résister jusqu'à la fin. Il résiste jusqu'à la fin, là. Jusqu'à temps qu'il l'ait en avant de lui puis qu'il succombe à cette pression-là. Et qu'encore une fois, là, évidemment, l'autre est très armé, mais encore une fois, succombe au geste de le faire, là, de tu sais, surtout dans le western, c'est un des thèmes les plus tripant du côté des cowboys, des héros. C'est ça, c'est dans le film Shane, où quand il débarque, il y a un lourd passé de gunslinger. Il louait sa gâchette, là. Il tuait des gens pour du fric. Et il a décidé que la rédemption, il lie d'amitié avec un fermier et là encore, il va résister jusqu'à la fin, jusqu'à temps que ça soit personnel, parce qu'il y a ça aussi. On ne peut avoir la rédemption et la volonté de faire, de dire « je vais suivre » parce que c'est ce que fait Red Doss. Red Doss revient en ville et il va suivre la loi. Il regrette ce qu'il a fait. Mais là, attends, là, tout le monde, « ah non, tu devrais pas », puis la pression de la ville et soudain la menace. Même le shérif, là, « comment, tu sais ?» Et voilà, et c'est ça, et c'est que personnel. Un moment donné, on est des humains et même les héros qui ont passé cette rédemption-là est à la merci des événements personnels qui nous arrivent.
Et j'ai l'impression que mis en contexte aussi cet album-là avec ceux qui le précèdent justement avec l'histoire de Hobbes, là, tu as vraiment un arc quand même extrêmement riche, puis une étude de personnages dans des situations précises, de voir comment il évolue, de voir les conséquences, comment il gère les conséquences, comment les autres gèrent les conséquences. Je veux dire, dans le contexte, rappelons-nous d'un album de 40-50 planches, de quelques albums, c'est extrêmement riche qu'on réussit à réfléchir, à exposer sur l'âme humaine. Et dans le contexte où Greg, les dialogues qu'il offre là-dedans, c'est fluide, ça sonne vrai. Je veux dire, il y a un fond de vérité dans cet album-là, dans cette série-là, qui est plaisant et enrichissant.
C'est la grande qualité de cette série-là. C'est une des meilleures séries, toutes catégories. Et surtout en western, là, Greg et Herman ont créé un personnage. Et là, on arrête à... Pour nous, la discussion est autour d'un taux, mais toute la série, les 10 albums qu'ils ont faits, c'est l'évolution de ce personnage-là. Parce qu'après, ça va continuer. Et là, il va y avoir, vers la fin, il y a un aspect politique dans lequel Red Doss ne voudra pas embarquer. Et, bref, et effectivement, c'est toute la complexité de chacun de ces... surtout de ce personnage-là. La complexité qu'un héros doit avoir pour qu'on accepte d'embarquer avec lui dans sa quête de héros.
Ouais. Ben, c'est très intéressant. Parce que moi, c'est ma première rencontre là, avec cette série-là, mais c'est pas un western manichéen là, en tel qui est juste fait de violence ou quoi que ce soit. T'sais. Et même, anti-cliché selon moi, c'est que le personnage, à mon sens, qui semble nous... en tant que lecteur du 20e, 21e siècle, nous permettre d'appréhender cet univers-là avec nos propres lunettes, c'est le shérif, alors que souvent dans les westerns, les shérifs, c'est des personnages un peu qui sont là quasiment pour comme faire valoir là, en tant que tel. Alors que là-dedans, c'est un personnage fort intéressant lui-même qui semble comprendre le personnage de Red Dust. En tout cas, c'est vraiment une belle série, effectivement, Arco. Puis, évidemment, là, t'as le dessin de Herman, qui est un maître. Ben, si on n'en sort pas, là.
En fait, si on revient à un épisode avant, qui était Les Loups du Wyoming, où, pour la première fois, il rencontre, il est confronté à Dobbs. En fait, c'est qu'il y a un chasseur de primes qui rentre en ligne de compte, un ancien pasteur. C'est lui qui va faire promettre à Red Doss d'arrêter Dobbs à n'importe quel prix. Il y a n'importe quel. Alors, en plus, Dust part en quête, mais avec la promesse qu'il a faite et qu'il doit. Voilà.
Et Edouard, ben, de ton côté, on t'a moins entendu sur Comanche un peu. Oui, vas-y.
Oui, mais en fait, bon, au-delà, parce que je partage bien sûr l'affection de mes collègues pour le travail en fait qu'Herman a fait avec ça, je veux dire, et comme je vous dis, la série, si vous ne l'avez pas lue, découvrez-la, parce que oui, il y a cette belle évolution, il y a cette densité, il y a cette touffeur, c'est absolument exceptionnel. Mais au-delà de ça aussi, je pense que pour en revenir en fait à la rédemption, le contexte, comme disait Marco, hein, de l'Ouest, et peut-être celui qui s'y prête le mieux. À chaque fois, on avait un contexte bon qui était très, très bien. C'est bon, le contexte maritime, bon, où on va en mer avec Haddock pour oublier ses erreurs. Donc, l'aspect religieux, l'aspect du futur qu'on connaît et qui doit nous amener à tout ça. Mais le Far West, comme le disait Marco, moi, je pense à l'homme qui tue à Liberté Valente, justement, ou à Shane, ou des choses comme ça. Je veux dire, c'est tout n'est que rédemption. Au Far West, je veux dire, on va dans l'Ouest pour se faire oublier des erreurs qu'on a faites à l'Est. Pensez à Lucky Luke ou « Ah, il s'en allait à San Francisco pour débuter une nouvelle vie. » Ben, c'est ça, l'Ouest. L'Ouest, c'était la rédemption des gens pour la plupart d'entre eux. Je veux dire, on quittait la pauvreté de l'Est, on quittait un avenir qui était... c'est ça la terre promise, c'est ça la rédemption, c'est d'aller vers là. Et on se retrouvait ben, justement dans des contextes comme on a exactement dans Comanche. C'est-à-dire, on a beau vouloir s'en tenir à certains principes, certains préceptes, certaines volontés héroïques, mais le contexte, la force, les circonstances font que Faut se trahir à soi-même ou faut aller chercher sa rédemption ailleurs d'une autre manière.
Quand tu arrives dans un endroit sauvage où il n'y a pas de loi, c'est évidemment la civilisation qui fait en sorte que ça devienne rédemption, tes erreurs. Oh là là, c'est profond, ça.
Oui, on laisse avec une belle profondeur.
C'est enregistré, j'espère. J'espère que c'est enregistré, là.
Alors, je rappelle en fait les quatre titres qu'on écoutait, qu'on lisait, en fait, qu'on a lu autour de ce club de lecture sur la rédemption. Alors, c'était Punk Rock Jesus de Sean Murphy chez Vertigo, Les aventures de Tintin, Crabe aux pinces d'or de Hergé chez Casterman, Les aventures de Spirou et Fantasio, Le réveil du Z de Tome et Jean-Ry chez Dupuis, et Comanche, Le désert sans lumière de Greg et Herman au Lombard. Avec moi, je remercie bien bassement donc Marco Duchesne, Édouard Tremblay et Jérôme Vermette. Merci beaucoup à vous trois. On se revoit évidemment dans quelques semaines pour un prochain club de lecture. Ce sera la sélection de Jérôme la prochaine fois. Alors, merci à vous trois.
Merci.
Ça va plaisir, mon ami.
Ciao.
Et c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.